un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Il s'appelle Alexander Karp. Il a cofondé une société américaine qui s'occupe de cybersécurité et d'intelligence artificielle. Ses principaux clients sont la CIA et le département américain de la défense. On dit qu'il n'est pas très au taquet sur le respect de la vie privée. Mais je vous parle de lui, car en 2020, son salaire annuel s'est élevé à 1 098 513 297 $. Je peux vous le diviser par jour et même par minute. Ça donne 3 millions de dollars par jour, 125 000 de l'heure et même plus que 2 000 $ la minute. On devine que ce salaire délirant est lié à des attributions boursières et à la logique du marché. Mais rapporté à une personne, à son travail, à ses besoins, à ce qu'il mérite, quel sens a-t-il ? Parce qu'à la fin, l'argent, il va bien sur son compte à Alex. Dans la société, au sein du groupe où il vit, dans son entreprise, quelle valeur a cette rémunération ? Quelle signification rapportée à sa valeur, son implication, son travail, à une certaine idée de ce qui est juste ou pas, par exemple ? C'est de ça qu'on parle aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, pas avec des milliardaires, mais avec des gens qui cherchent du sens à leur salaire et celui des autres, qui veulent comprendre, être transparents, plus égalitaires, ou bien que leur travail soit mieux rémunéré, bref, que leur force ne soit pas exploitée, au profit d'autres personnes. Trois histoires tout de suite par Judith Chétrit, La valeur du travail.
Alors, je m'appelle Anne, j'ai 50 ans. Je suis assistante de vie depuis 6 ans et j'ai voulu retourner sur le terrain en nuit parce que c'était un poste que j'aime beaucoup parce que là, j'ai l'impression de faire mon vrai métier, créer du lien, de m'occuper des bénéficiaires correctement et d'être pas pressée avec le temps. J'ai commencé à aide à domicile, je touchais 600 € par mois, net. Après, je suis passée à 130 € par mois, ça fait 1 000 € par mois, net. Et là, comme je suis passée un temps plein, et en plus de nuit, parce que les heures de nuit sont payées un peu plus, c'est pour ça que j'ai un peu plus que le SMIC normal. Mon taux horaire d'aujourd'hui, il est de 10,50 € sur un temps plein de 151,67 € je crois, et je gagne 1 658 € net. La nuit, je suis qu'avec une seule personne, et la journée, non, on est avec plusieurs personnes. On va de domicile en domicile, ce qui est beaucoup plus difficile pour avoir le temps de faire les choses correctement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un temps plein dans le métier du maintien à domicile, c'est très très dur. C'est très prenant, psychologiquement et physiquement. Donc il faut qu'on soit assez solide pour tenir un temps plein. Et puis après, il y a une vraie politique de l'entreprise ou des différentes structures qui veulent que des temps partiels parce que leur position, c'est de dire que c'est plus facile de gérer un temps partiel qu'un temps plein. Comme on est un secteur où on a besoin de personnes à peu près à des heures identiques, le matin pour le lever, la toilette, le petit déjeuner, ensuite le midi pour les repas, après le repas du soir et le coucher. Ça, c'est vraiment des moments clés du maintien à domicile. Il y a forcément ces moments clés qui sont faits et le reste qui est mis à côté et c'est ce qui est dommage parce qu'on isole encore plus et c'est violent pour la personne et c'est violent pour la professionnelle qu'on est de ne pas faire notre métier correctement. Après une journée difficile, c'était un dimanche, moi je m'occupe de personnes avec des handicaps mentaux et physiques. Et cette journée-là a été terrible parce que j'ai pris toutes leurs angoisses. Et en fait, j'ai dû m'adapter à chaque fois selon les angoisses que j'avais en face de moi. Je suis rentrée, je me suis installée sur mon canapé. Et puis une phrase est sortie, je me sens seule. Et j'ai mon mari qui était juste à côté, il me dit, non mais non, t'es pas seule, je suis là. Et je l'ai regardé, je lui dis, mais non, tu comprends pas, je suis seule dans mon métier. Je lui dis, j'ai eu une journée compliquée et je peux en parler à personne. Et j'ai créé un groupe sur Facebook qui s'appelle le collectif La Force Invisible des Aides à Domicile. Alors pourquoi La Force Invisible ? Parce que la force, ça nous représente, nous, en tant que professionnels, hommes et femmes. Et invisible parce que on est invisible, on passe de domicile à domicile, on ne nous voit pas et puis on est invisible au niveau des pouvoirs publics. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout seule et que c'était une réalité dans toute la France, ce sentiment d'isolement. Et on peut parler, on peut discuter de nos conditions de travail, de nos salaires, de nos problématiques de gestion. On peut aussi dire, alors c'est fait très pudiquement, qu'on a des problèmes financiers, qu'on a des problèmes relationnels avec les responsables, avec les collègues. Ça a fait un rapprochement. On est toutes d'accord, quelle que soit la structure juridique, on demande toutes une revalorisation, même celles qui sont un peu mieux payées que certaines. Et avant l'inflation, qu'ils aient augmenté le SMIC, le SMIC était à 10,25. Moi, j'ai eu une augmentation à 10,50. Le SMIC a été réévalué. Il est passé à 10,48. Mais moi, je suis restée à 10,50. Et j'avais demandé à mon directeur, est-ce que moi, je vais garder mon augmentation? Ça ne va pas me changer parce que sur mon bulletin de salaire, ça va me faire 30 euros de plus. Mais c'est juste de me dire que cette augmentation, je l'avais, qu'on ne doit pas me l'enlever parce qu'il y a eu une réévaluation du SMIC. Et lui m'a répondu que lui subissait la réévaluation du SMIC et qu'il avait dû le faire pour les autres qui n'avaient pas été augmentés. Et il m'a dit qu'au mois de novembre, sur le bulletin de mois de novembre, j'aurai cette réévaluation à 10,73 € de l'heure. Et je regarderai mon bulletin de salaire. C'est pas beaucoup, mais c'est une première pierre. On a une grille de salaire, vous n'avez pas de diplôme, vous avez 6 ans d'expérience, et puis on vous dit, ah ben c'est tel taux. Mais derrière, pendant ces 6 ans, j'ai acquéri des expériences, j'ai acquéri des compétences. Et ça, il faut à chaque fois le marchander quand on va voir un nouveau directeur. Il faut parlementer et puis il faut surtout pas avoir peur de demander plus en fait. Il y a dans certaines entreprises, dans certaines structures, un téléphone portable où on badge, où on a nos emplois du temps dessus. Quand on arrive chez la personne âgée, on badge. Et quand on a fini, on débadge. On est géolocalisé, les temps de travail sont calculés. Après, tous les mois, c'est envoyé à un centre de gestion et c'est ça qui fait notre salaire, en fait, qui calcule le temps effectif de travail. Et ce qu'il faut comprendre, quand on a des temps courts, une demi-heure pour faire un lever, une toilette, un petit déjeuner, une préparation, eh bien, en fait, on n'a pas le temps forcément de tout faire. Mais c'est-à-dire qu'on dépointe et on continue à le faire parce qu'on ne va pas laisser la personne aider sans avoir tout fait. Et ce qui amène du travail, du bénévolat en fait. Et pourquoi on le fait ? On le fait parce que, un, on est professionnel, et de deux, si on ne le faisait pas, si on pointait réellement au temps qu'on passe chez la personne âgée, c'est un surplus à la personne âgée qui sera facturé. Et ce temps-là, chez certaines familles, on sait qu'on ne peut pas parce qu'elle n'aura pas les moyens de le payer. Et on est un secteur où on manque de personnel et on n'arrive pas à négocier nos salaires. Les politiques n'entendent pas qu'il faut augmenter nos salaires. Il n'y a pas cette volonté de le faire réellement et sur tous les secteurs. Donc ça, c'est terrible. En fait, c'est des précaires qui s'occupent des précaires. et on laisse cette précarité s'instaurer, et comme si c'était une évidence, et non, c'est pas une évidence. Je me pose pas la question si je travaille gratuitement ou pas, parce que ça me ferait mal. Et j'aurai l'impression de ne pas faire mon travail correctement. Si je mets la condition de l'argent dans mon travail, en tout cas dans la prestation que je fais auprès de la personne âgée, ouais, je me dirais l'argent, il n'a pas sa place parce que je travaille avec l'humain. Mais je me la pose quand je reçois mon bulletin de salaire. Et je me dis, mais ah ouais, que ça pour tout ce que j'ai fait ce mois-ci, ça fait peu. C'est juste quand je reçois mon bulletin de salaire que je me la pose. Quand je suis avec les personnes aidées, je ne me la pose pas.
Le moment que je préfère, c'est de regarder les pains qui gonflent dans le four. Surtout si je suis en train de faire des essais ou de quelque chose d'un peu particulier, de regarder la façon dont ils cuisent et la façon dont ils gonflent. C'est toujours un moment d'enchantement en fait. Je m'appelle Gilles, j'ai bientôt 50 ans, j'ai 3 enfants, j'habite en Isère à côté de Grenoble et je suis actuellement boulanger-vendeur dans une boulangerie société coopérative qui s'appelle Le Pain des Cairns. Cette boulangerie, elle fabrique du pain au levain naturel, c'est sa spécialité, elle utilise des farines que nous achetons à des agriculteurs meuniers en circuit court, tout en farine bio. Et dans notre boulangerie, nous sommes tous boulangers-vendeurs. Nous faisons tous la même part en termes de production et de vente. Et nous avons aussi des rôles transverses qui permettent de faire fonctionner l'entreprise, comme le rôle stock, le rôle gestion sociale, qui fait livrement des fiches de paye, par exemple, le rôle administratif qui paye des factures, le rôle communication, etc. Et ce sont des rôles tournants, c'est-à-dire qu'au fil des années, nous sommes tous amenés à participer à ces rôles transverses. Avant, j'étais ingénieur. J'ai travaillé pour un grand groupe de la microélectronique pendant 13 ans. J'ai tenu plusieurs fonctions, dont notamment des fonctions de manager. Et ensuite, je suis allé travailler dans une scierie industrielle où j'étais le directeur production. Je gagnais 3800 euros net par mois. J'avais mis très longtemps pour trouver ce poste dans la région. Je savais que ça serait difficile de retrouver un poste de ce niveau-là. J'envisageais pas du tout à l'époque de gagner moins, en fait. Je pense que c'est très personnel. Je suis entouré d'amis qui sont cadres, en fait, hein, et qui gagnent quand même très bien leur vie. Donc, ça ne fait pas partie du modèle de se dire, bah, tiens, je vais partir de mon emploi et je vais accepter un autre emploi qui va diviser le salaire par deux ou par trois. Et là, j'ai essayé de faire des choses au niveau de la scierie et je me suis opposé à mon patron. Et ça a pris du temps, beaucoup de temps pour que je m'en aille parce que je n'arrivais pas à faire le pas. Et finalement, c'est lui qui m'a licencié. Et donc, à ce moment-là, je me suis retrouvé sans travail. Après réflexion et recherche, en fait, je suis rentré dans cette boulangerie. Le salaire était unique pour tous les boulangers-vendeurs. À l'époque, il devait être légèrement en dessous des 1600 euros net par mois, et auquel je savais que des allocations chômage, un complément d'allocation chômage allait être ajouté. Donc, en prenant ce travail, je savais que ma rémunération allait être d'environ 2500 euros net par mois pendant un certain temps, c'est-à-dire pendant le temps que j'allais toucher le chômage. Mes enfants étaient assez fiers, j'ai eu l'impression que je devienne boulanger, ça leur parlait beaucoup. Ma femme, aucun problème. C'est peut-être chez mes parents que ça a été où l'émotion a été la plus forte, parce que revenir sur un métier d'ingénieur pour passer à quelque chose de boulanger, forcément, ça déboîte un peu au niveau de la culture. En fait, je me suis rendu compte après coup et après l'expérience que les changements sont venus en douceur. Il y a eu un rapport à la consommation, notamment, qui a changé. C'est-à-dire, peut-être que là, je ne pourrais pas m'acheter encore une fois une nouvelle paire de skis. Mais ça n'a pas beaucoup changé autrement. 2500 euros net plus le salaire de ma femme, c'était en fait assez confortable. Une des raisons qui fait que c'était suffisamment confortable, c'est que j'ai terminé de rembourser l'emprunt pour ma maison. Donc j'ai plus cette échéance mensuelle qui était à l'époque d'environ 1000 euros par mois. Forcément, dans ces cas-là, tout de suite, tout s'allège. Hein. À l'été 2019, mes allocations chômage s'arrêtent. Donc il y a une perte de revenus pour moi d'environ 800 euros par mois. Et en plus de ça, ma fille doit louer un logement à partir de septembre parce qu'elle part faire ses études sur Lyon. Donc ça augmente les dépenses de 500 euros. Et là, je fais les calculs et je me rends compte qu'avec le salaire de ma femme et le mien, ça risque d'être un peu plus tendu et que potentiellement, ça nécessiterait, si je veux rester dans cette boulangerie, de commencer à utiliser notre épargne commune. Alors, je vivais pas très très bien le salaire unique. J'avais accepté l'expérience pendant 2 ans et demi à peu près, avec une certaine part de conviction, en tous les cas, une envie de vivre une expérience. J'en ai pas parlé de ça. J'ai pas osé. J'ai pas réussi à exprimer à ce moment-là mes ressentis, mes émotions, ma frustration. Eh bien, un jour, j'ai pris mon courage à deux mains et, comme c'est possible dans notre gouvernance, j'ai apporté une envie au tableau blanc que j'ai posé devant tout le monde en disant que j'ai besoin de gagner 500 euros net par mois supplémentaires pour faire face à mes dépenses. Ils m'ont demandé d'expliquer pourquoi est-ce que j'avais ce besoin-là, donc ce que j'ai fait en fait, comment je le justifiais aussi, donc ce que j'ai fait, j'ai argumenté, basé sur ce que j'avais fait aussi. C'est vrai qu'à l'époque, j'estimais aussi que je le méritais bien, hein, avec près tout ce que j'avais fait pour la structure et là où je l'avais emmené. Globalement, la réponse a été, en synthèse, merci pour ce que tu as fait et non, on ne voit pas pourquoi aujourd'hui tu gagnerais plus qu'un autre. Il y a un grand blanc qui passe et c'est à ce moment-là qu'un des associés salariés dit « Ah bah c'est peut-être le moment d'expérimenter le salaire au besoin ». Les uns et les autres dans la réunion nous posons des questions et qu'est-ce que tu entends par le salaire au besoin et donc là il y a une clarification, chacun exprime son besoin financier, nous mesurons l'impact sur la masse salariale et la manière de le financer, c'est-à-dire est-ce qu'il faut augmenter le chiffre d'affaires et comment on le fait pour pouvoir réaliser cela. Et pas de justification. Pas de justification parce que c'est se lancer en fait dans des discussions probablement stériles. Ça va amener les uns et les autres à expliquer son mode de vie et nos modes de vie sont les nôtres et notre façon de consommer est la nôtre. Et si on commence à dire oui, ben c'est pas normal que tu demandes autant parce que tu consommes comme ça alors que tu pourrais faire comme ci, mais non, là on peut pas s'en sortir en fait. On s'est retrouvé juste après l'été pour travailler sur salaire aux besoins et entre-temps, on avait tous pris le temps de définir le salaire que l'on allait demander. Il y en a deux qui demandent aucune augmentation, un qui demande une augmentation de 100 euros, un autre de 250 et moi-même de 500. Ça a amené mon salaire à 2100 euros net par mois. Et l'entreprise, à ce moment-là, était capable de payer les 3 augmentations qui étaient demandées. Cependant, ça n'a pas été accepté si facilement, si simplement. Au moment des objections, il y a une personne qui a trouvé qu'il y avait un risque, en fait, à ce que ces sommes d'argent soient incluses dans les salaires directement. Et après réflexion, donc nous avons pris la décision de mettre cette somme d'argent sous forme de prime mensuelle, de sorte à pouvoir arrêter au bout d'un moment si des fois c'était la décision qui serait prise. Et nous décidons en même temps de modifier les horaires de la boutique pour avoir une plage d'ouverture plus grande et d'agrandir le magasin pour mettre une deuxième caisse en vue de réduire le temps d'attente. Et nous faisons ça à l'automne 2020. Et depuis, nous avons vu une progression de notre chiffre d'affaires d'environ 30%. On savait qu'au bout de 6 mois, on allait re-questionner l'expérience. Est-ce qu'on allait la continuer ou l'arrêter? Et au cours de cette réunion, certains n'étaient pas très à l'aise avec le besoin et exprimer son besoin. Donc là, nous avons décidé d'arrêter cette politique salariale pour revenir à une politique salariale beaucoup plus classique, une grille de salaire basée sur le niveau de pouvoir et de responsabilité que chacun d'entre nous a dans l'entreprise et aussi dû au statut. Il y a à la fois un échec et une réussite dans cette expérimentation. C'est un gros paradoxe. Il y a une réussite parce que ça a permis d'emmener tout un groupe de 11 personnes pour augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise. Et au final, on se retrouve tous avec une augmentation de salaire qui est assez importante. Pour moi, je le vois en même temps comme une sorte d'échec, dans le sens que nous sommes revenus à une grille de salaire basée sur les mêmes principes que les structures hiérarchiques et que les entreprises classiques capitalistes, et qui ont des modèles que nous critiquons assez dans cette boulangerie. Je remarque simplement que j'ai un certain rapport à l'argent, que j'ai encore un besoin de reconnaissance par le salaire. C'est un peu pénible d'observer ça, bon, c'est le cas.
Je m'appelle Guillaume Robin, j'ai 56 ans, je suis président directeur général de Thermador Group. Nous avons actuellement plus de 700 salariés. C'est un groupe qui est spécialisé dans la distribution de matériel pour la circulation des fluides dans le bâtiment et l'industrie. Alors, je suis arrivé dans cette société au travers d'une filiale qui s'appelle PB Tube. À l'époque, cette filiale cherchait un directeur commercial et moi, j'étais en recherche d'emploi. Lors des premiers entretiens que j'ai passés, je n'ai pas forcément compris tout de suite que la transparence allait jusqu'à la transparence des salaires. C'est ensuite que je l'ai compris, une fois que j'ai été embauché. Et c'est quelque chose qui m'a tout de suite plu, puisque j'aime que les choses soient dites, claires, et je pense que c'est réellement une façon simple de motiver les gens. Et donc la première réunion à laquelle j'ai participé et où j'ai pu voir les salaires de toute l'entreprise et j'ai pu voir que tous les salariés voyaient mon salaire, s'est déroulé d'une manière assez tranquille, je dirais, comme toutes les réunions que j'ai faites par la suite, puisque ça fait partie des habitudes du groupe et des sociétés du groupe. Le fondateur de l'entreprise a mis en place ce principe dès qu'il a créé Thermador en 1968. Ça consiste très simplement à afficher un tableau par ordre alphabétique dans lequel figure la rémunération fixe mensuelle et la rémunération globale annuelle de chacun des salariés. Nous laissons ce tableau suffisamment longtemps pour que chacun puisse voir, regarder, noter ce qui l'intéresse. Il existe des règles, bien évidemment, puisque nous ne souhaitons pas que les salaires des salariés se retrouvent sur la place publique, voire sur Internet. Et d'ailleurs, c'est des choses qui nous ont été exprimées par les salariés eux-mêmes. Ils sont d'accord pour que leur salaire soit communiqué en interne. Ils ne sont pas d'accord pour que leur salaire soit connu par leur famille, leurs cousins, leurs amis. Donc ce qu'on demande à nos salariés, c'est de ne pas prendre de photos et de ne pas diffuser ces informations en dehors du groupe. Ça permet à chacun de se situer et éventuellement de poser des questions à son responsable direct. Tiens, mon salaire est moins important que X ou Y, puis-je en connaître les raisons ? On a rarement la question « mon salaire est plus important que X ou Y, puis-je en connaître les raisons ?» parce que ça paraît à chacun tout à fait normal. Et les craintes sont liées à des incohérences, puisqu'au fil des années, les managers peuvent se laisser aller finalement accorder une augmentation de salaire à des personnes qui sont virulentes, qui sont dures en négociation. Et donc ces personnes-là sont amenées à avoir des meilleures rémunérations simplement parce qu'elles sont meilleures négociatrices. Quand vous devez mettre ça sur le tableau aux yeux de tous, c'est extrêmement difficile à assumer. Nous avons fait une série d'acquisitions durant ces dernières années. Le dirigeant de cette société m'avait demandé un petit peu de temps pour faire les réglages nécessaires et éviter que la transparence des salaires ne se transforme en règlement de compte. Et au bout de 2 ans, nous avons mis les salaires au tableau sans que ça provoque de clash notoire au niveau de cette entreprise, et c'est devenu maintenant un rituel. D'une manière très concrète, quand vous décidez de mettre en place la transparence des salaires, bah, vous devez vous poser la question de l'effet que ça va avoir sur les salariés. Si vous décelez une injustice notoire, que ça soit à la baisse ou à la hausse d'ailleurs, bah, vous devez la régler, cette injustice. Quand le salaire est trop bas, finalement c'est relativement simple, il suffit de l'augmenter. Quand vous avez dans une équipe un salaire qui est trop haut, c'est là où vous avez vraiment un sujet délicat. Parce qu'il va falloir expliquer à cette personne qu'elle a été un petit peu mieux payée pendant des années et qu'il va falloir que pendant des années, 2, 3 ans, elle accepte une stabilité de son salaire pour que ses camarades la rejoignent. Et donc c'est une nouvelle qui n'est pas forcément très bien accueillie par la personne qui a bénéficié pendant des années d'un salaire plus élevé sans vraiment de justification. Il nous est arrivé à l'occasion d'une autre acquisition qu'un salarié nous dise « c'est illégal », d'ailleurs c'était pas en France, hein, nous dise « c'est illégal, vous n'avez pas le droit de publier mon salaire et donc je suis contre la transparence des salaires ». Vous pouvez imaginer que c'est un salarié qui a été extrêmement bien rémunéré. Et c'est d'ailleurs souvent les mieux rémunérés qui peuvent se montrer les plus frileux à la transparence des salaires. Dans le groupe Thermador, l'écart est actuellement très important puisque la rémunération annuelle a été de 21 000 euros, la rémunération la plus basse annuelle a été de 21 000 euros en 2020, alors que la mienne a été de 311 000 euros. Donc c'est très important. Ce que je constate tout de même, c'est que cette haute rémunération est globalement assez acceptée par les salariés du groupe. Nous ne sommes pas sur des rémunérations à 1, 2, 3 millions d'euros, qui seraient, de mon point de vue, moins acceptables et source de tension. Quand nous discutons avec les actionnaires, les investisseurs sur le sujet des rémunérations des dirigeants, ils nous demandent de plus en plus de justifier précisément la partie variable de la rémunération. Pourquoi est-ce que vous avez touché 100 000 euros de variable? Expliquez-nous, c'est lié au résultat d'exploitation, mais est-ce que c'est lié aussi à d'autres indicateurs sociaux, environnementaux, des indicateurs de gouvernance? Donc je ne cache pas que ça demande beaucoup d'explications, beaucoup de travail, et de mon point de vue, ce n'est pas forcément très utile à partir du moment où la rémunération n'est pas sur des sommets. Donc c'est, je dois le dire, parfois agaçant d'avoir à confirmer que finalement on fait bien son travail. Voilà, alors je pense que c'est la conséquence d'un certain nombre d'abus. Certains dirigeants ont manifestement abusé de leur pouvoir pour se verser des rémunérations non cohérentes et trop importantes. Et donc ceux qui sont raisonnables souffrent de ça puisqu'ils doivent justifier du moindre centime, alors que ce n'est pas vraiment nécessaire de mon point de vue. Like running away all the time. It's not the main thing, the only thing. So why don't you pay me back some more? Hell, there's so much to do that I can tell. No way of stopping more clientele. So why don't you pay me back some more?
C'était La valeur du travail, un reportage de Judith Chétrit réalisé par Clémence Gross et Emmanuel Geoffroy avec un coup de main de Jean-Christophe Francis et diffusé pour la première fois en 2022. Au mixage, Emmanuel Armin, merci à Anne Losseg, à Gilles Christin et à Guillaume Robin, ainsi qu'à Valentin Rémy, l'attaché de production des Pieds sur Terre, et à Nour Mohamedi, notre stagiaire. Never talk about family. So why don't you pay me back some more, some more, some more, some more? Life. For many of us, it's just a crash. No lives, no future, only trash. So how can you earn more and more and more and more and more? It's time.